Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info de ce lundi 13 mai 2008, 13 mai 58, 13 mai 68, jour de commémoration géométrie variable. Et pour aborder les rubriques internationales et nationales dans les studios Jean-Pierre et en duplex Robert, salut, es-tu là?
Je suis là,
eh ben,
oui.
Là. Voilà.
Mais Michel n'est pas parmi nous.
Non, pas ce soir. Voilà, eh bien, on va ouvrir avec la rubrique internationale. Tu avais un petit peu envie d'aller faire un tour des financiers qui, de ceux qui les supportent pour nous enfumer un brin.
Mm-hmm. Oui, mais d'ailleurs, il y aura peut-être un 13 mai 2013 sur la nuit du 4 août des paradis fiscaux. On ne craint pas d'être de grands naïfs.
Faudra bien attendre jusque-là.
Hein. Oui, 2013, hein, 2013, donc dans 3 jours, peut-être qu'à la fin de la semaine, on aura enfin de vraies nouvelles. Mais bon, on va simplement résumer les chapitres en cours. La fin de la semaine dernière, le G7, là, les grandes puissances, France, Allemagne, Grande-Bretagne, États-Unis, Italie, etc., se sont réunis pour discuter justement de voir si on pouvait faire un pas en avant pour échanger les fichiers. Alors, ces fameux fichiers, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne la création des sociétés offshore dans les paradis fiscaux. On sait que ces fichiers, enfin, ces créations sont couvertes par la légalité, on peut dire, de la plupart des pays, en jouant sur les lois avec des astuces tout à fait, effectivement, qui jusqu'à présent n'avaient soulevé aucun procès qu'on aurait pu introduire sur ces affaires-là. Alors, ça concerne donc les grandes entreprises, naturellement, et les grosses fortunes. Ces temps-ci, on s'attachait surtout à dénoncer les fraudeurs, c'est-à-dire les gens qui ont un peu de fric et puis qui jouent avec ça à titre personnel, souvent, bien qu'il soit cet argent, il n'aurait pas tombé du ciel. Ils l'ont gagné souvent avec les profits des grandes entreprises. Mais on ne voulait pas trop toucher aux grandes entreprises qui allaient se cacher dans les paradis fiscaux. Là, cette fois-ci, on laisse entendre que pourrait y avoir effectivement ouverture des fichiers. Alors là, ce serait effectivement une grande nouvelle. Ce qu'a cru pouvoir annoncer Moscovici, mais il n'est pas une déclaration près. À pas de géant, on avance à pas de géant. Bon, alors ça naturellement, ça nous rappelle le grand pas pour l'humanité, des premiers hommes qui ont marché sur la Lune. Alors là, si on arrivait à piétiner les paradis fiscaux, ça deviendrait l'enfer pour un certain nombre de gens. On n'en est pas là. Néanmoins, on peut dire que quand même la pression populaire incontestablement joue un rôle et on aurait tort de ne pas le remarquer. C'est-à-dire que derrière cette bataille sur les paradis et tous les fraudeurs fiscaux, eh bien, on n'oublie pas qu'il y a la crise financière que des millions de gens de par le monde, et paradoxalement, c'est plutôt dans les pays développés qu'on en parle le plus et que ça se sent le plus. Donc, faut faire quelque chose. Pour aboutir à quoi, c'est pas trop. À la fin de la semaine, va se tenir à Moscou, un forum mondial des administrations fiscales. Effectivement, alors là, on peut dire, oh, formidable, là, ils vont mettre également les pieds dans le plat, et c'est à nouveau le grand déballage pour tenter de sortir de cette économie financière spéculative qui tourne autour des paradis fiscaux et au-delà. Mais enfin, l'essentiel se jouant dans les paradis fiscaux. On rappelle, en passant, que cette enquête des journalistes internationaux, on appelait ça l'offshore, l'offshore leaks. Alors, peu en coulisses jouait un rôle, bien qu'on a compris que les grands médias qui avaient des journalistes dans le coup sont très prudents, n'ont pas voulu publier la liste et ne menacent même pas les grands de ce monde de publier leur liste. Alors, il y a eu des publications, des petits morceaux de publications aux États-Unis, en Grande-Bretagne. C'est ce qui a peut-être conduit ces deux pays, alors qui effectivement sont peut-être les plus coincés au nom de ce qu'est leur propre explication du libre-échange, où normalement il devrait y avoir une certaine transparence. Et d'ailleurs, alors Grande-Bretagne, États-Unis et Australie, tiens, comme par hasard, le sterling plus le dollar, vont se consulter sur cette ouverture des fichiers. Alors, oui, c'est effectivement l'euro est tenu à l'écart. Et pour l'instant, Hollande a demandé aux trois anglo-saxons là, d'ouvrir aussi des fichiers en faveur de la France et puis des autres pays qui sont dans la zone euro. Ça coince un peu. Ce qui veut dire que le dollar et le sterling veulent contrôler la manœuvre. Voilà où on en est. Alors, rêvons un peu. Rêvons qu'à la fin de la semaine, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, qui constitue un 13 mai, il va se passer des grands chambardements sur les marchés monétaires.
Oui, puis s'ils ratent leur échéance, ils vont pouvoir se rattraper, parce qu'il y a un G20 au mois de juin, je crois. Hein, donc
il y aura ensuite un G20, un autre G20, effectivement, avec les BRICS, c'est-à-dire les pays qui veulent le rejoindre, et pour certains obtiennent déjà des concessions, puisque le prochain président de l'Organisation mondiale du commerce, ce sera un Brésilien. Ah, voilà, déjà, ça ne sera plus un Français, ça ne sera plus un Européen, comme c'était le cas jusqu'à présent, depuis des décennies. Voilà sur ce dossier. Donc les bourses ne s'affolent pas. Donc on peut penser que tout ça, ça peut faire effectivement un flop.
Oui, je voulais te rassurer, parce que Moscovici, qui s'est envolé en disant on a avancé à pas de géant, aussitôt après il a ajouté une petite phrase, mais on va pas décider la fin du paradis fiscaux. Hein. Ah non, on n'en est pas là. Hein.
Voilà, bien sûr.
Et je voulais signaler aussi cette info que j'ai récupérée, c'est que les Allemands, qui sont des modèles de vertu financière, c'est bien connu, la Bundesbank, à elle toute seule, a quelques 1000 agences filiales dans les paradis fiscaux. La Société Générale, quant à elle, n'en a que 200. Donc voilà à quoi méditer aussi.
Et alors qu'en France, côté des multinationales françaises bancaires, c'est la Générale qui était. Paribas aussi.
Crédit Lyonnais et compagnie, hein, Crédit Agricole, enfin ils en ont tous. Voilà, autre sujet, on peut peut-être sous un titre générique dire qu'il y a de la violence un peu partout, de la violence explosive, puisque Syrie, Pakistan, qu'est-ce qu'on a d'autre encore, où il y a eu des attentats, des explosions ces jours, la Turquie bien sûr, tout ça autour de la crise syrienne, enfin pas le Pakistan, c'est quand même largement indépendant, mais... Alors, si on parle du Pakistan, pour commencer, peut-être les élections qui vont conduire à un changement de gouvernement, puisque 14 ans après, c'est le retour de Sharif, qui avait été viré par le coup d'État de Musharraf à l'époque, qui revient démocratiquement, entre guillemets, diriger le pays et prétend pour le moment vouloir harmoniser un peu ses relations avec les États-Unis et autres, quoi. La campagne a quand même fait 130 morts parce qu'on vote pas dans le calme là-bas, et il y a eu 60% de votants, paraît-il, ce qui est un nombre relativement intéressant et confortable pour de telles élections, quoi. Voilà, tu voulais en dire plus sur le Pakistan, il va falloir le voir à l'œuvre, cet homme-là, c'est un industriel.
Oui, simplement rappeler qu'il est détenteur de l'arme nucléaire, et que il est souvent en conflit larvé avec le voisin indien. Les Américains essayent effectivement de s'appuyer sur le Pakistan, alors que les Russes, eux, jouent plutôt la carte indienne. Mais ça n'est pour l'instant que des situations, peut-être explosives, mais qui n'a pas encore explosé. Et il y avait effectivement le savoir entre les mains de qui allait tomber l'arme atomique.
Alors, il a gagné les élections, mais il n'est pas majoritaire à lui tout seul, donc il va devoir convaincre des petits partis de s'allier à lui pour pouvoir constituer un gouvernement. Allez, Moyen-Orient, alors Syrie, Turquie, Iran, ça bouge de tous les côtés, bien sûr, avec... on ne sait pas par quel bout prendre les choses, donc cet attentat au sud de la Turquie, 43 morts, une centaine de blessés par deux voitures piégées. Les Turcs accusent les services de Bachar el-Assad en disant qu'ils avaient identifié les véhicules. Ils ont arrêté des gens. Ça prouve rien dans un premier temps. On peut toujours arrêter des gens. C'est pas pour autant que ce sont ceux-là qui ont fait le coup. Donc une déstabilisation, les Turcs disent qu'ils n'acceptent pas, mais en même temps, ils ne veulent pas se lancer dans la guerre non plus. D'autant plus qu'ils ont pas mal de réfugiés, 300 000. C'est pas difficile d'infiltrer du monde quand il y a au milieu de 300 000 réfugiés, quand on veut déstabiliser les choses. Alors qui a intérêt à déstabiliser? C'est pas forcément el-Assad, ça peut être lui, mais pas obligatoire. Ça remue aussi en Jordanie, qui accueille la Jordanie, elle, 500 000 Syriens, qui voient sa population augmenter de 20 à 25%, donc ils réclament des aides à l'ONU et aux puissances occidentales, des aides qui, selon eux, n'arrivent pas comme elles sont annoncées. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Enfin, sur le plan politique, la situation n'a pas beaucoup bougé. L'ONU enquête donc toujours sur ces histoires d'armes chimiques, mais el-Assad n'est pas très prompt à recevoir les gens de l'ONU. Ils veulent bien qu'ils viennent, mais seulement à Damas. Alors, ce faisant, c'est sûr qu'il suscite une suspicion à son endroit dont on a du mal à croire qu'elle soit purement naïve. Quoi. Voilà. Et puis une action militaire donc, qui reprend avec l'aide, oui, il faut le dire, de l'Iran et du Hezbollah, qui prend parti fait et cause et arme aussi aux côtés du pouvoir légal de la Syrie pour essayer de renverser la situation. Allez, je te laisse commenter aussi.
Simplement ajouter à ce que tu as dit que en coulisses, on préparerait une grande conférence internationale qui pourrait se tenir avant la fin du mois, ce qui, bon, paraît bien audacieux, mais pourquoi pas, tant mieux. Une conférence internationale et que Moscou et Washington y travaillent d'arrache-pied. Tout en maintenant, et en général c'est comme ça, en maintenant des déclarations les uns et les autres qui peuvent apparaître comme contre-indiquées par rapport au projet de conférence internationale, puisque d'un côté on a un Kerry qui donne l'impression d'être plus va-t-en-guerre que ne l'était Hillary Clinton, qui l'a remplacé au ministère des Affaires étrangères aux États-Unis, et qui dit « Oui, mais moi, je crois quand même que les Syriens de Bachar détiennent et ont utilisé surtout le gaz toxique sarin. » Et puis, en face, eh bien, on a Lavrov et les Russes qui disent « Non, on n'a pas arrêté, ce n'est pas contradictoire avec nos contrats, on n'a pas arrêté de livrer des armements aux Syriens au pouvoir. » Donc, une à la fois, donc c'est cette double impression que dans la coulisse, on voudrait préparer quelque chose, négociation politique, tout en donnant l'impression chacun, effectivement, de soit soutenir complètement Bachar, soit, effectivement, de le dénoncer complètement. C'est comme on dit, lorsque les grandes discussions internationales interviennent, on est souvent dans cette situation. Donc on ne peut pas préjuger de la mise sur pied de cette conférence internationale.
Donc aujourd'hui rencontre Obama-Cameron à Washington autour de ce projet de conférence en Syrie, et demain c'est en Russie Netanyahou qui va voir les Russes pour essayer de les persuader d'arrêter de livrer des armes à Damas, avec peut-être quelques arguments dont il ne nous a pas fait part avant sa visite.
Oui. D'ailleurs, des Israéliens qui, eux aussi, sont en porte-à-faux dans leur politique internationale, parce que, d'un côté, effectivement, Bachar, ça demeure un ennemi, mais c'est un ennemi avec qui on pouvait discuter et puis, finalement, assurer la stabilité dans la région. Mais par contre, avec ceux susceptibles de prendre le pouvoir à Damas, et notamment les plus forts, c'est-à-dire le courant djihadiste, les salafistes wahhabistes, les problèmes pour Israël seront compliqués. Et il leur faudra effectivement demander à Washington d'intervenir pour sur le plan traditionnel, c'est-à-dire que Washington et les Américains jouent l'Arabie Saoudite à fond pour contenir l'éventuellement percée des wahhabites et des salafistes à Damas.
Voilà, à propos de l'Iran, c'est autre chose, on va dire, mais il est important de le dire. Le 14 juin, il y aura des élections présidentielles.
Oui,
donc Ahmadinejad sera remplacé. Alors, 686 candidats, ils ne font pas de primaire là-bas. Hein. Bon, il ne va pas en rester 686 sur la ligne d'arrivée, mais pour le moment, il y a beaucoup de candidatures. Quoi. Alors, Rafah Jani revient sur le devant de la scène à 78 ans, et il pourrait être l'homme de consensus qui emporte le morceau. Quoi.
Oui, il y a... effectivement, ça peut surprendre les gens, parce que effectivement, c'était cette situation hybride iranienne, où on joue le pluralisme politique, mais dans un système tout à fait encadré par les religieux, mais le pluralisme. Il y a une commission qui va écrémer les candidatures déjà, et puis seront autorisés, je crois qu'il n'y en aura pas 600 qui vont être autorisés à se présenter. Mais néanmoins, il y aura effectivement au moins un candidat dit représentant les réformateurs, qui serait donc Rafsanjani, et puis un candidat qui, lui, serait plus conservateur, ça ne veut pas dire grand-chose par rapport aux réformateurs, et qui serait un peu un ancien proche d'Ahmadinejad, qui a fait deux mandats et qui donc ne peut pas... il pourra éventuellement faire comme Poutine, c'est-à-dire attendre 4 ans et puis se représenter. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Je crois que c'est Jalili qui est donc le candidat, et c'est un ancien diplomate qui a été responsable notamment de la politique nucléaire. C'est pour ça qu'on le met un peu dans le côté des conservateurs, parce que il a défendu ce qu'est la politique nucléaire des Iraniens, quels que soient les courants. Mais c'est un vrai combat politique avec, sans doute, on va assister à des échanges très durs qui pourraient, nous, par moments, nous faire penser que finalement, ils ne sont pas très loin de la pratique de nos démocraties, mais avec donc cette réserve de taille, que c'est bien encadré par la loi religieuse.
Voilà, alors autre sujet, on peut dire quelques mots des élections aux Philippines aussi, puisqu'il va y avoir des élections départementales, sénatoriales, locales. Bref, 70 000 places à prendre, ce qui n'est pas rien. 52 millions d'électeurs, ce qui n'est pas rien non plus dans ce pays, avec des élections qui se passent dans une ambiance de violence, puisqu'on comptabilise déjà 30 morts, quoi. Et peut-être de la tricherie, puisque les pots de vin sont déjà dénoncés. Et Aquino, qui est le président sortant, mène la campagne et espère bien être réélu. Voilà, autre sujet, je vais peut-être dire quelques mots de l'Afrique, le Mali, où actuellement se déroule une situation de forte tension et peut-être de combat autour de Kida, une ville où les militaires maliens et tchadiens tentent d'entrer et de se l'approprier. Au moment où le MLNA, donc, qui s'est maintenant un peu désolidarisé de ses amis d'une période d'Al-Qaïda, et les déloger. Pourquoi ? Parce qu'il faut reprendre le pouvoir sur l'ensemble du territoire, et Hollande met la pression. Ah oui. Il veut des élections au Mali le 21 juillet au plus tard. Quoi. Donc pour ça, il faut bien sûr... arriver à reprendre la main. À un moment où les Tchadiens, quant à eux, pensent que c'est pour eux le moment de rentrer à la maison, ils ont déjà 36 morts, 70 blessés, ils considèrent que leur mission est terminée, et des Tchadiens qui vont rentrer retrouver leur président aux pratiques douteuses, qui sont un petit peu dénoncées. Alors bien sûr, on avait besoin d'eux pour la France, je parle, avait besoin d'eux pour remettre un peu d'ordre dans le nord du Mali. D'un autre côté, le président semble en profiter, Idriss Méry, pour arrêter des journalistes, arrêter des opposants, et là, la France, on l'entend pas. Le Monde s'est payé un édito sur le sujet la semaine dernière, ou samedi, je sais plus, pour dire comment se fait-il que deux poids, deux mesures, quand des choses parfaitement anormales se passent au Tchad, on ne proteste pas, on ne manifeste rien, alors que ailleurs, on fait beaucoup de bruit, voire on déplace des armes. Quoi.
C'est ce qu'on appelle la réelle politique. La réelle politique. Le Tchad, effectivement, c'est un pilier, et Déby est un pilier dans la région. Et il intervient un peu comme intervenait Kadhafi avant qu'il soit éjecté et assassiné. Et maintenant, c'est un peu lui qui tient le rôle de Kadhafi. Il n'en a pas les moyens financiers, loin de là même. Ce que tu disais, d'ailleurs, les Tchadiens se posent la question de... Il y a maintenant une production pétrolière au Tchad, et on ne sait pas. Ils vont sûrement en grande partie à l'armée, mais ils vont aussi sûrement dans la corruption, les profits de ces richesses minières. Je voulais dire simplement que Hollande ne manque pas d'aplomb. Sa déclaration, elle est étonnante. Enfin, elle est vraiment dans la ligne totale de ce qu'était la France-Afrique d'avant. Bon, il estime qu'il est légitimé internationalement pour faire ça, mais il dit telle l'élection, je veux qu'elle se déroule dans tout le pays. Bon, c'est-à-dire que, bon, il a dit le Mali, c'était prévu, mais que le Nord aussi vote en même temps. Bon, et voilà, alors ça fait quand même assez curieux pour le moins. Je voulais dire peut-être revenir en Europe pour quelques informations. On votait en Bulgarie aussi pour élire des députés, puisque le système, c'est pas, ça se fait à deux niveaux. Les députés ensuite élisent un président. Et semble-t-il que c'est le centre droit, c'est-à-dire la droite, on va dire.
Bon, vous
on va s'éviter des appellations intermédiaires. C'est la droite qui l'emporterait sur les socialistes. Alors les socialistes, c'est compliqué. Il y a les nouveaux socialistes très très européens. Puis dedans, il y a aussi les anciens communistes qui sont devenus socialistes. Il faut rappeler que la Bulgarie, c'est le pays qui est resté communiste encore quelques années, le seul d'ailleurs qui est resté communiste avec Jikov, Todor Jikov, plusieurs années, je ne sais pas combien, plusieurs années après la chute du mur, donc après 90. Et puis, bon, il y a eu des élections et peu à peu, ils ont été éliminés en tant que maître du pouvoir. Mais c'est un cas particulier, la Bulgarie.
Un pays en crise sociale et en proie à un certain nombre de scandales, le dernier étant la découverte de 350 000 bulletins frauduleux pour le parti au pouvoir, quoi. Donc il va gagner les élections au forceps. En Italie, étais-tu à Rome ces jours derniers, samedi, pour la manif pro-Berlusconi ? Ce pauvre homme victime de la persécution des juges. Et ce soir, j'ai appris qu'il y avait un nouveau procès qui redémarrait, son histoire de prostituée et puis d'autres choses, où il risque encore 6 ans de tôle en plus. Comment peut-on faire autant de misère à un homme qui est la providence du pays et qui pratiquement gouverne en sous-main avec le nouveau Premier ministre? L'Italie nous étonnera toujours.
Voilà, mais en fait, ça va se terminer, on va voir, simplement, il va être interdit d'exercer un mandat. Mais comme tu viens de le dire, de toute façon, il n'a pas besoin de se faire élire pour avoir de l'influence sur pas mal de gens, et notamment ceux qui ont été recrutés par l'État, le nouveau Premier ministre de l'Italie. Et puis, si ça se trouve, on va faire jouer la prescription, peut-être, sur tous les procès. On va vers une solution, une solution entre guillemets, qui pourrait bien ressembler à ce déni de justice. Oui. Je parlais aussi, par contre, l'Espagne. Alors là, l'Espagne, c'est bien, parce que les indignados sont remontés au front, et non seulement ils étaient dans la rue depuis 2 jours, parce qu'ils fêtent le 2e anniversaire de leur mouvement, mais en plus, ils ont décidé que tout le mois de mai serait consacré à des manifestations, manifestations, ça ne veut pas dire que tous les jours ils vont mettre des centaines de milliers de gens dans les rues de l'Espagne, mais il y aurait quelque chose qui fera que les idées vont continuer à progresser sur un constat que, effectivement, après tous ces mois de lutte, eh bien, sont apparus derrière l'image d'une protestation globale, des divergences sur qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Et c'est inévitable, c'est normal, que peut-être parce que les forces politiques gauche, d'extrême gauche, tentent effectivement de faire prévaloir leurs propres idées sur la suite à donner au mouvement, peut-être.
Un mot sur cette affaire de panneaux solaires chinois qui est assez bidonnante. L'Europe a entrepris de taxer à 40% à l'entrée donc les panneaux solaires chinois, au prétexte qu'ils font de la concurrence déloyale en pratiquant des prix trop bas, en dessous du prix de revient, dopés en cela par le pouvoir, enfin l'administration chinoise qui leur octroie des aides, des prêts, des terrains, des choses pour qu'ils puissent vendre à moindre coût. Du coup, ils ont raflé 80% du marché européen. Les boîtes en France arrêtent ou ferment les unes après les autres. Le dernier exemple qu'on a très proche d'ici, c'est Bosch qui, à Vénissieux, là, hein, en face Carrefour, va arrêter son activité et mettre 200 personnes au chômage à cause de ça. Alors que fait l'Europe ? Eh ben, elle fait du protectionnisme. Elle décide que, puisque ces prix ne sont pas concurrentiel et raisonnable, eh bien tout simplement on va taxer lourdement les produits à l'entrée. Ah, mais ça c'est une bonne idée, mais que ne l'a-t-on fait et que ne le fait-on avec toute la bonneterie, les sweats, t-shirts et autres chaussettes qui ont liquidé toute notre industrie nationale par des prix défiant toute concurrence et en dessous des prix de revient normaux. Ça n'est pas venu à l'idée de l'Union européenne. Alors pourquoi est-ce que c'est à géométrie variable, ce truc-là ? Je rappellerai une fois de plus que si on appliquait à l'entrée toutes les prestations sociales qui ne sont pas prises en compte par les Chinois, hein, les cotisations retraite, les cotisations maladie et autres assurances familiales, il est évident que les prix seraient un peu moins bas en France et qu'on pourrait peut-être être concurrentiel plutôt que de chercher à aligner les salaires des travailleurs français sur ceux des Chinois du style un dixième d'euro de l'heure, quoi. Voilà, alors on s'est fait une fixation sur les panneaux solaires, mais je pense que ça mériterait qu'on ouvre un peu les yeux et qu'on élargisse l'amplitude. Les Chinois ne s'y sont pas trompés, ils vivent ça très mal, déjà qu'ils ont du mal à maintenir leur croissance à 10% et qu'ils sont obligés d'aller exploiter un peu plus fort que chez eux, par exemple, les gens du Bangladesh, hein, d'ailleurs, ce sera 1000 morts, c'est, comme on l'avait pensé dès le début, c'est plus 300 ou 340, on en est pratiquement à 1000, et c'est peut-être pas fini. Donc, ces Chinois répliquent en disant que puisque c'est ainsi, eh bien, on va voir ce qu'on va voir, et les tubes de Vallourec, qui vont pouvoir se les garder, ou du moins, je sais pas, s'ils ont trouvé un autre fournisseur moins cher, mais ils veulent faire de la rétorsion. La guerre économique est lancée entre la Chine et l'Europe. Là aussi, je pense que nos financiers et nos maîtres des paradis fiscaux sauront trouver des arrangements. Voilà, on fait la pause musicale, Robert, ou tu as encore une info internationale ?
Simplement, ajouter sur ce dossier que il y a une espèce de réveil de la classe ouvrière chinoise. Ici et là, ça a été dans les grandes unités, souvent des unités qui sont installées par des multinationales qui ne sont pas d'origine chinoise, mais également des entreprises, ces grandes entreprises d'État chinois qui sont privatisées, c'est-à-dire que des gens du régime se sont accaparés. Eh bien, aujourd'hui, s'exerce une véritable résistance avec des mouvements sociaux importants et on s'aperçoit que les autorités chinoises sont très embarrassées parce qu'en même temps, c'est un peu un retour sur le passé, c'est-à-dire que le régime communiste, avec tous ses défauts, faisait que bon, les travailleurs, ils bossaient bien ou mal, c'était pas important, ils avaient un certain nombre d'avantages gratuits, l'éducation, la santé, le logement, pas mal de choses, tout ça, ça a disparu, et donc les ouvriers et les ouvrières, aujourd'hui, se disent, mais c'est que ça va pas du tout. Le capitalisme n'était pas ce qu'on espérait de lui. Certes, on est un peu plus libre, mais on a beaucoup de problèmes.
Voilà, les pauses musicales, on va la faire avec la fête à Joyet. Joyet, ça va être sa fête à Lyon cette semaine. Oui, le 16 mai, à tout bout de champ, sort de sa cave étriquée et nous emmène à la salle Victor Hugo dans la mairie du 6e, enfin pour ceux qui voudront y aller, pour faire une fête à Joyet. Depuis le temps qu'on fait la fête à Ferrat, à Ferré, à Brassens, fallait bien qu'un jour ça lui arrive à lui. Alors il y aura plein de monde, il y aura Michel Bernard, il y aura Yves Jamais, il y aura Pascal Mathieu, il y aura Francis Casselville, il y aura Pierre Margot, et Bernard Joyet aussi bien sûr. Alors je vous propose de l'entendre dans une de ses chansons, une de ses chansons phares, grand succès, qui s'appelle le Gérontophile.
Certains de nos congénères ont la manie bien singulière de tomber bêtement amoureux de plus jeunes qu'eux. Quelques dangereux maniaques qui de leurs ardeurs démoniaques vers les tendrons, les jouvencelles et les pucelles. Gamines nubiles novices, sans l'objet de leurs sévices, ils font la sortie des lices, c'est insensé. Cette irréparable offense à la pureté de l'enfance, perpétrée par ces renégats, fait du dégât. Ce genre d'enfantillage, c'est le doigt dans un engrenage, vis-à-vis du code pénal, ça peut faire mal. De ce côté, je suis tranquille, car moi je suis gérontophile, la bonne soupe est dans les vieux pots, c'est mon topo. Viens m'aimer, m'aimer, viens m'aimer, le temps fait du bien à l'affaire, j'aime ce grain de sel dans tes cheveux. Petit examen s'impose, mignonne, allons voir si l'arthrose a point d'effet lipidineux. J'aime les doyennes et les douairières, les grisonnes et les rombières, les femmes d'académiciens, je fais dans l'ancien. Maison de retraite, hospice, voilà des endroits propices, on a calvé le petit doigt, on a le choix. J'aurai d'après les psychologues l'obsession de l'archéologue, le complexe du reliquaire de l'antiquaire. Viens m'aimer, m'aimer, viens m'aimer, le temps fait du bien à l'affaire, j'aime ce grain de sel dans tes cheveux. Un petit examen s'impose, mignonne, allons voir si l'arthrose a point d'effet lipidineux. Dans les cimetières, il y a des veuves presque fraîches, presque neuves, qui tomberaient la culotte de deuil en un clin d'œil. Tant de soldats morts en campagne ont abandonné leur compagne en panne sur la page 3 du Kama Sutra. Celle-là ne demande qu'à nous suivre, histoire de compulser le livre, de le dévorer jusqu'à plus fin, jusqu'au mot fin. Viens m'aimer, m'aimer, viens m'aimer, t'en fais du bien à l'affaire, j'aime ce grain de sel dans tes cheveux. Un petit examen s'impose, mignonne, allons voir si l'arthrose a point de fait lipidineux. Vivez, prenez de la bouteille, revenez quand vous serez bien vieille, ridez, décrépitez, dentez, ça peut me tenter. La muette amplifie le geste pour montrer qu'elle a de beaux restes, et la sourde crie bien plus fort, encore, encore. Madame, quel désir vous agite, c'est le diable qui vous excite. Non, monsieur, ce corps qui frissonne, c'est Parkinson. Viens m'aimer, m'aimer, viens m'aimer, le temps fait du bien à l'affaire, j'aime ce grain de sel dans tes cheveux. Un petit examen s'impose, mignonne, allons voir si l'arthrose a point d'effet lipidineux. Parfois ma déraison s'égare, je rêve de la perle rare qui aurait connu la maman de Jeanne Calment.
Hey.
Joyet, de l'espoir à tout âge, non, ça s'appelle le Gérontophile. Il sera donc jeudi avec plein d'amis pour interpréter ses chansons à Lyon. Vous écoutez bien Radio Canus 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Ce Canu Info du 13 mai, nous arrivons à la rubrique nationale avec l'annonce de la conférence sociale qui va nous changer la vie, n'est-ce pas, Robert?
Et oui, qui va pour ce qui concerne, par exemple, la journée de demain, on va expliquer comment les choses, effectivement, s'articulent et c'est habilement joué par le gouvernement. Demain 14, c'est une sombre journée, puisque ce sera demain 14 mai, le vote définitif de l'accord national interprofessionnel, l'ANI, ce qu'on a appelé l'ANI, et qui constitue, au prétexte qu'on veut sécuriser les travailleurs, en fait, on a organisé la flexibilité des travailleurs, c'est-à-dire qu'un recul sur le code du travail, sur un chantage au licenciement, pour ceux qui, effectivement, n'acceptent pas les réductions de salaire ou l'augmentation des heures de travail, etc., des choses comme ça. Et puis, sur le plan juridique, pour ne plus contester dans les comités d'entreprise la fermeture de sites et les plans sociaux qui vont avec. On pourra, mais ça sera beaucoup plus difficile à mener le combat contre ça. Et puis aussi, même les prud'hommes vont être touchés par l'application de cette loi, puisque l'ANI va devenir une loi, un moment historique, comme le prétendait Hollande, qui ne manque décidément pas de toupet. Alors, c'est du coup demain, tous les médias, comme aujourd'hui, mais surtout demain, vont évoquer l'ouverture des discussions concernant une poursuite de la contre-réforme en ce qui concerne les retraites. Ce qui veut dire que finalement, on va passer d'un sujet à l'autre en douceur. L'ANI va entrer dans les règles légales de la République, tranquillement, par un vote qui va sans doute avoir lieu demain après-midi, puisque la commission paritaire Assemblée nationale et Sénat est arrivée à un accord. D'ailleurs, un accord qui est un recul aussi, d'après ceux qui ont fait l'analyse du compromis entre les deux assemblées, qui revient sur les quelques acquis qui avaient pu être obtenus, notamment au Sénat, et qui a été remis en cause à l'Assemblée nationale et par le gouvernement, et donc balayé, effacé. C'est-à-dire qu'on en revient presque au texte de départ, c'est-à-dire texte très, 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 très dur, sur lequel on ne pourrait pas, même pas dire que, comme prétendait la gauche du PS ou même les Verts, prétendait que, bon, il y avait eu quelques acquis positifs. Bien, on verra demain quel va être leur vote sur le vote définitif. Sur l'ANI. Donc, tout ça, on en parlera plus demain, parce que la grande bataille, la grande controverse sur la réforme va repartir, et la droite, évidemment, immédiatement enfourche le cheval de bataille en disant, voilà, eh bien, il faut effectivement que ce qu'a commencé Sarkozy, il faut que Hollande le poursuive. Alors, retraite à 65 ans, allongement des durées de cotisation et tout ça. Donc, première rencontre, première explication aujourd'hui, mais comme je l'ai dit, ça masque tout à fait que, en fait, on va définitivement faire entrer dans nos mœurs les conséquences désastreuses sur le code du travail de l'accord national interprofessionnel. Et j'avais en mémoire ce qui s'est passé la semaine dernière. La veille du 1er mai, c'est-à-dire, non, c'est pas la veille du 1er mai, ou peut-être bien la veille, enfin, dans cette période, 1er mai, 5 mai, c'est-à-dire entre le 1er mai et puis la grande manifestation du Front de Gauche élargie à d'autres gens le 5 mai, eh bien, comme par hasard, avait sorti une proposition de loi, émanant donc, comme toute proposition de loi, des députés, et qui visait à préparer un texte sur les licenciements boursiers dont on discuterait dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Mais il y avait l'annonce, la communication était faite habilement pour tenter de, très clairement, pour tenter de, là aussi, de désamorcer tout ce qui pouvait apparaître eh bien, une contestation de la part des syndicats ou de politique gauche de gauche dans cette période de la semaine du 1er au 5 mai. Très habile manœuvre du gouvernement pour faire arriver en douceur ces contre-réformes, les faire passer, ouvrant une nouvelle contre-réforme au moment où va être définitivement acquis l'autre contre-réforme sur l'ANI. C'est impressionnant. Si on était méchant, on dirait que c'est diabolique. Voilà. On le dira pas, parce que il y a tellement de gens qui croient encore qu'on peut faire des choses intéressantes avec les socialistes au pouvoir. Et bon, il y a eu quelques bribes d'accord, mais c'est si peu de choses.
Ceci dit, le Front de Gauche, la CFGT, FO et d'autres ont encore le temps de se mobiliser et de se faire entendre, puisque la conférence sociale en question qui s'ouvre les 20-21 juin doit durer jusqu'en septembre, donc l'occasion de débat et d'avancer des arguments, comme ceux de la CGT qui voudrait que le salaire minimum soit porté à 1700 euros, ce qui remonterait du coup les cotisations et les remettrait le régime en meilleure santé. Les faux qui fait valoir que l'espérance de vie en bonne santé est bien inférieure à 65 ans qu'à 62 ans. On est déjà souvent en moyenne pénalisé, et que 67 ans, donc on a beaucoup de soucis. La CFDT, qui elle, alors là, va avoir du mal à s'entendre avec tout le monde, semble vouloir, c'est presque, voudrait mettre en place un système à points, un peu comme les retraites complémentaires, mais on a envie de dire aussi un peu comme les fonds de pension et autres systèmes qui ne relèvent pas de la solidarité nationale. Comme toujours pas très clair dans leurs avancées sociales, la CFDT.
Oui, un peu faire entrer effectivement les compagnies d'assurance, comme d'ailleurs, on ne l'a pas rappelé, mais dans le cadre de l'ANI, on les fait entrer par la grande porte, au prétexte qu'il y aura davantage de gens qui pourront se prémunir d'une complémentaire. Mais en fait, ouais. Tout ça se fait au profit des compagnies et du privé en termes d'assurance. Ce n'est pas du tout la sécurité sociale qui va gérer ça.
Il y a eu une manifestation, il y a une semaine, que je n'ai pas très bien comprise, des assureurs qui protestaient parce que, soi-disant, la mise en place de la mutuelle généralisée à tous les travailleurs allait les entraîner à perdre une trentaine de milliers d'emplois en France, les assureurs privés. Hein. Là, je n'ai pas très bien compris le scénario du film, mais peut-être faudra fouiller un peu pour voir le vrai sens de cette protestation qu'ils ont voulu émettre dans la rue.
Eh oui, ils voient que la loi, le gouvernement s'appuie sur les mutuelles qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'était le mutualisme quand il a été créé. Les mutuelles sont devenues également des grosses affaires capitalistes.
Ouais, avec mais l'aide de... Oui, avec l'aide de la pression européenne qui leur met des normes de fonctionnement.
Plus, voilà, l'arrivée des autres Européens. Oui.
Allez, une rubrique nationale et locale, puisque Valls et Taubira sont peut-être encore à Lyon aujourd'hui, pour fêter, commémorer, enfin se glosser, se gausser de la réussite des zones de sécurité prioritaires. C'est pas les ZEB, c'est les ZSP. Il y en a 15, dont à Lyon, une entre autres à la Duchère en tout cas. Et avec un bilan qu'ils tirent à leur avantage, mais qui est très mitigé chez les observateurs sociaux, puisque tout le monde admet que ça fonctionne mal. Alors, le principe de ces zones de sécurité prioritaire, c'était d'engendrer une très forte concertation au niveau de tous les services impliqués. Puis on s'aperçoit à l'usage que chaque domaine d'activité, les éducateurs spécialisés d'un côté, les flics de l'autre, les agents de l'administration d'un autre, ont tendance à faire remonter les informations et les problèmes à leur hiérarchie, mais pas tellement à fonctionner à l'horizontale. On peut comprendre d'ailleurs que les éducateurs spécialisés ne passent pas leur temps à dénoncer aux flics tous les gens dont ils s'occupent, puisque c'est à l'encontre un peu de leur déontologie. Ces ZSP, ça fonctionne pas si bien que ça, et même si le gouvernement s'en félicite et prétend avoir des résultats, c'est beaucoup plus discutable que ça. En plus, aujourd'hui, on a envie de dire ils n'ont pas eu de peau, mais il y a pire qu'eux, c'est qu'ils ont été débordés par un événement qui n'a rien à voir, mais quand même, qui est l'incendie qu'on a connu dans un squat de la rue Audibert-Lanrotte. C'est une rue qui, quand vous prenez l'avenue Berthelot et que vous tournez à droite comme pour aller aux États-Unis et que vous contournez le système de la Guillotière, c'est une rue qui est le long du cimetière de la Guillotière. Là, un vieil immeuble, c'était un squat non pas dans des cabanes ou dans des choses comme ça, mais dans un vieil immeuble abandonné par une entreprise. Il y a eu le feu et à l'heure qu'il est, il y a de repérer trois morts, dont un gosse de 12 ans. Mais il y en a peut-être plus, parce que ce squat, on a pu apprendre qu'il logeait énormément de monde, des Roms essentiellement, hein, et qu'il y a eu jusqu'à 300 personnes qui logeaient là-dedans. Et donc il n'est pas sûr que le bilan ne soit pas plus dramatique encore que celui qu'on nous a annoncé aujourd'hui. Et Mme Taubira, bien sûr, a dû se rendre sur place pour voir les choses avec Valls.
Oui, on avait bien entendu que sur la région lyonnaise, Vince pourchassait tous les campements roms, et donc en les détruisant, les gens ils sont réfugiés là où il y avait des bâtiments vides. Et ce qu'il faudrait qu'ils prennent en compte, c'est que finalement, quand les codes sur les campements roms, il n'y a jamais ce type d'accident, parce que les campements roms sont organisés, sont gérés, et même effectivement des fois si ils prennent des risques, notamment avec les baraquements en bois et tout ça, mais en fait il n'y a pas eu ce genre d'accident qu'on va constater de plus en plus, parce que effectivement pourchasser, réfugier n'importe où, c'est toute une organisation qui est brisée, et je vois pas l'intérêt de Vass de mener cette politique, sinon d'un point de vue idéologique. Hein. C'est comme la bande à Sarko, c'est-à-dire que c'est une idée fixe. Il faut dégager les Roms, c'est une idée fixe. Et c'est dangereux, et ce qu'il est en train de faire, on pourrait presque le considérer comme complice passif de ces morts d'aujourd'hui. Pendant qu'on est à Lyon, je ne sais pas ce qu'il en est. La semaine dernière, la police qui avait mis les mauvaises lunettes, au lieu d'interpeller un regroupement de gens que l'on catalogue assez facilement comme fascistes d'extrême droite, a décidé d'arrêter tous ceux qui voulaient contre-manifester pour dénoncer justement ce rassemblement d'extrême droite. Et donc c'est ceux-là que la police a arrêté. Alors j'en étais resté au fait qu'ils avaient été interpellés, que le lendemain ils étaient encore en garde à vue d'ailleurs. On pensait que là aussi ça allait être quelque chose qu'on allait utiliser avec beaucoup de discernement, la garde à vue, mais ça semble pas être le cas.
On n'a rien dit sur la ZAD.
Auditrice de Canu, soyez pas inquiets, les informations, vous les avez. Si nous, on ne vous les donne pas plus complètement, vous les aurez si vous ne les avez déjà eues.
Oui, on n'a rien dit sur la ZAD. Voilà, ça a quand même été un succès, cette manif de la ZAD samedi, puisque 12 000 personnes selon les flics, 40 000 selon les pro-manifestants, donc on peut penser que c'est entre les deux comme d'habitude, mais donc sur 25 kilomètres, une chaîne humaine pour délimiter l'espace que le héros et sa bande veulent condamner à toute activité agricole humaine sensée pour y mettre un aéroport de fous, quoi. Et il y a toujours deux commissions qui sont là pour établir un projet modifié. Autant dire que Héro n'a pas lâché le morceau et qu'il joue le temps et il essaie de fatiguer tout le monde. J'espère que de guerre lasse, il pourra faire passer son projet, même s'il est modifié sur des points très mineurs, arriver à créer cet aéroport. En tous les cas, la mobilisation populaire s'est faite samedi à Nantes.
Oui, et Héro, effectivement, continue d'utiliser l'argument de mauvaise foi, mais qu'il tente d'accréditer comme étant un argument de bonne foi, disant, mais on nous reproche que c'est un vieux projet, mais justement, donc si c'est un vieux projet, ça veut dire que pourquoi n'y a-t-il pas eu de bataille jusqu'à présent contre ce projet, et que cette bataille se déclenche à un moment où moi je suis Premier ministre. C'est quand même pas gentil ce qu'on veut me faire. Bon, argument naturellement de mauvaise foi, mais qui peut effectivement avoir encore de l'impact sur les citoyens mal informés de ce qui se passe réellement et de ce grand débat qui est ouvert, c'est-à-dire l'idée que, bien au-delà de la Notre-Dame-des-Landes et de l'aéroport, c'est remettre la remise en cause de grands chantiers qui certes peuvent donner l'impression qu'ils vont contribuer à la relance de la croissance, mais en fait qui vont continuer l'impasse de ce type de croissance productiviste qui ne fait que reculer un petit peu plus les prochains échecs.
Alors, dans les manifs sympathiques du week-end, on citera la manif anti-corrida à Nîmes aussi, qui a profité des fêtes de la période pour manifester contre la corrida. Ils ont quand même réuni 1200 à 5000 manifestants, ce qui est pas mal dans cette ville-là. Et puis aussi la manif des soignants à Paris qui proteste contre les conditions de travail qu'on leur fait subir, conditions de travail qui se répercutent directement sur les personnes soignées, puisque par exemple, ils disent que dans beaucoup de maisons, il y a une aide-soignante ou une infirmière pour 80 résidents et que c'est complètement insuffisant. Et donc ces personnes réclament non pas une augmentation, mais des meilleures conditions de travail et de soins pour les patients que nous sommes tous appelés à être un jour ou l'autre.
Je voulais évoquer aussi le travail très discret, très en profondeur que mène à travers le pays, au plan local comme au plan départemental ou régional, les collectifs pour un audit citoyen de la dette. Collectif pour un audit citoyen de la dette, c'est cette appellation, le CAC, CAC. Ils avaient volontairement, en même temps, d'une manière de singer le CAC 40. Et c'était tout le débat qu'on se souvient, qui se poursuit sur la dette, les dettes. Et faut-il payer la dette, dette légitime, dette illégitime, emprunt toxique. Et donc, tous les collectifs vont faire le point là-dessus à la fin du mois. Donc, ça veut dire qu'ils vont essayer de faire des synthèses pour que le jeudi 30 à Paris, il y aura une grande rencontre de l'ensemble des collectifs. Ça va se passer à la Bourse du Travail, rue du Château d'Eau, le jeudi 30 mai. Donc, tous les collectifs sont au travail et continuent de travailler pour essayer non seulement de bloquer tout le débat sur la dette au sens où on dit « Ah, mais la dette, il faut payer, c'est la dette, c'est comme ça, on paye ses dettes. Si on paye pas ses dettes, on est un mauvais citoyen. » Donc, non à la dette, surtout dans la dette, dans ce qu'elle a d'illégitime, ce qui en constitue la plus grande partie, et surtout quand elle est appuyée sur les emprunts toxiques qui ont ruiné des tas de collectivités territoriales.
Voilà, nous arrivons au terme de ce Canu Info. On va donner une info culturelle. Ben deux, ce mardi, demain à 20h30, à l'espace Baudelaire, c'est à Rieux-la-Pape, Jacques Legrand donnera son spectacle Hispaniola. Et puis, ben, on en a parlé la semaine dernière, on le rappelle quand même, vendredi, samedi et dimanche de cette semaine, cette fois, c'est le festival Engrangeons la musique à Brignier-Cordon, dans le Bugey, avec entre autres la fanfare Couche-Tard que vous entendez en fond sonore, qui nous allons terminer ce Canu Info. Je ne vous donne pas le programme, il y a plein de choses tous les jours de 10h, midi, 16h, 20h, un programme festif avec moyen de se restaurer. Donc si vous avez envie de sortir et de passer des bons moments en musique et en chanson, le festival Engrangeons la musique à Brignier-Cordon, c'est 3 jours de la fin de semaine. Voilà, ce Canu Info se termine. Il sera rediffusé demain matin à 8h. Vous pourrez également le retrouver sur Internet dans le blog des Canu Info. Bonsoir.